Bonjour et merci de nous accueillir dans ce superbe endroit. La réflexion que je vais vous proposer aujourd'hui, elle est issue de ma thèse de doctorat en cours en anthropologie. Et donc c'est une réflexion que je vous propose de mener en partie avec moi. En Wallonie, l'idée selon laquelle les forêts sont malades et les chasseurs sont les vétérinaires de ces forêts est répandue. Mais penser la chasse comme un remède, ça veut dire d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a à soigner ou quel manque il faut pallier. Et d'emblée, la réponse semble évidente en Wallonie. D'ailleurs, tout le monde s'y accorde plus ou moins, qu'on soit chasseur, garde forestier, naturaliste. La chasse pallie le manque de prédateurs naturels des grands ongulés sauvages et assure leur régulation. Cependant, certains forestiers, mais même certains chasseurs et surtout beaucoup de naturalistes, commencent à suggérer que la forêt, en fait, elle est aussi malade de la chasse et que le remède serait devenu poison, en fait. Alors, l'Ardenne belge, c'est la grande banane verte à droite sur l'écran, s'étend au sud du Sillon Sambre-et-Meuse, sur la majeure partie des provinces de Liège et de Luxembourg, et elle se présente vraiment comme une terre de chasse et surtout comme une terre de chasse au gros gibier. Et d'un bout à l'autre de celle-ci, qu'on soit chasseur, forestier, naturaliste, tout le monde s'accorde sur une chose, elle est plus giboyeuse que jamais. Le suivi des populations de cerfs et sangliers réalisé par le service public de Wallonie, donc le département de la nature et des forêts, mais aussi le département d'études du milieu naturel et agricole, montre qu'en effet, sur les dernières années, on a une augmentation continue des effectifs de gibier et qu'entre 1979 et 2009, on a des populations qui ont plus que triplé. Mais les personnes que je rencontre sur le terrain, dans le cadre d'entretiens ou en les accompagnant dans leurs activités, ne s'appuient pas tellement sur les chiffres pour rendre compte de cette expansion rapide, mais sur leur propre expérience de celle-ci. Et donc, je vous livre ici le témoignage d'Albert, un chasseur, qui me dit « Moi, quand j'ai tiré mon premier sanglier, il ne se souvient plus très bien, en 1963 ou 1962, mon grand-père m'a dit « Regarde-le bien, parce que tu n'en verras plus beaucoup dans ta vie, c'était en forte diminution. » Et aujourd'hui, pourtant, en Wallonie, certains chasseurs voient leur passion devenir une charge à cause de l'expansion des sangliers et de l'augmentation conséquente des dégâts dans les pâtures et dans les cultures, pour lesquels ils sont responsables économiquement, c'est-à-dire que c'est eux qui dédommagent les agriculteurs. Et dans les forêts, les forestiers font un constat similaire. En Wallonie, les forêts publiques ont surtout une vocation sylvicole, et les gardes forestiers se disent traumatisés en fait, par les dégâts du gibier qu'on peut y voir. On voit ici sur les photos, donc, au centre, en haut, régénération naturelle de hêtres, pardon, qui ne grandit plus à cause de l'abrutissement. Sur la photo au centre, en bas, c'est un peuplement d'épicéas dont 100% des arbres sont touchés par les dégâts de gibier. Alors, plusieurs facteurs participent de l'expansion démographique et géographique des populations de gibier, des hivers plus doux, une extension progressive du couvert forestier, mais aussi le développement des cultures et des fructifications abondantes. Mais certains chasseurs assument complètement et disent que les surpopulations de gibier aujourd'hui ne sont dues qu'aux chasseurs en Wallonie, et particulièrement, mais pas seulement, on le verra plus tard, aux grosses chasses qui cantonnent et laissent pulluler le gibier. Alors Yvan, dont on voit le témoignage ici, lui ne s'en cache pas, donc il est à la tête d'une chasse de 2500 hectares, c'est déjà conséquent en Wallonie, et il me dit, à propos d'une partie de son territoire, « C'est là que se trouve la densité la plus forte de gibier sur tout l'ensemble de mon territoire. Pourquoi ? Parce que j'y gâte mes sangliers, j'y gâte mes biches, j'y gâte mes cerfs, même si ce n'est pas toujours dans les limites légales. » Pourtant, Yvan, comme beaucoup d'autres chasseurs, revendique avec fierté le rôle de gestionnaire de la faune. Et c'est un paradoxe qui va pousser en fait, les détracteurs de l'activité cynégétique à taxer les chasseurs d'hypocrisie, et puis à suggérer qu'en fait, ils n'utilisent cet argument de gestion que pour légitimer une pratique qui est un peu en manque de légitimité, justement. Alors, une précision importante concernant ma recherche, c'est qu'il y a un parti pris important qui est celui de prendre au sérieux les acteurs rencontrés sur le terrain. Alors, comme le souligne Barthes, mais aussi d'autres sociologues, prendre au sérieux les acteurs sur le terrain, ça ne veut pas dire penser qu'ils ont raison de dire ce qu'ils disent, mais qu'ils ont des raisons de le dire. Et c'est pour ça que je me penche en particulier sur les raisons qui ont les chasseurs de se dire gestionnaires, surtout sur ce que ça veut dire pour eux, sans préjuger d'une hypocrisie de leur part d'emblée. À l'autopsie, il semble qu'un malentendu relatif à la nature de la gestion cynégétique persiste. Il repose notamment sur l'incompatibilité entre ce que les chasseurs conçoivent comme l'essence de la chasse et les attentes de l'administration à leur égard. L'opposition entre la rhétorique qualitative des uns et les exigences quantitatives des autres reflète en fait la coexistence sur le sol ardennais d'au moins deux interprétations de ce que signifie chasser et de ce que signifie gérer la faune. Alors, au début des années 70, la création des premiers conseils cynégétiques va entériner en fait le rôle de gestionnaire des chasseurs. Ils sont chargés de coordonner la gestion cynégétique sur des territoires qui sont délimités par arrêté ministériel. Et au départ, en fait, ils visent principalement le vieillissement des cerfs. Dans un mouvement similaire, à la même époque, la région wallonne va mettre en place le premier plan tir cervidé, qui vise à assurer lui aussi la conservation des cerfs en limitant notamment le tir des grands boisés. Ces événements concomitants, ou presque, illustrent l'émergence d'une logique gestionnaire dans le milieu cynégétique et coïncident avec le développement en France de ce que Ludovic Ginelli appelle la chasse-gestion, qui fait du chasseur un producteur de gibier. Mais face à l'expansion rapide de l'espèce, la région wallonne va imposer, début des années 2000, des quotas de tir minimum et maximum pour les non-boisés. Aux objectifs de conservation qui étaient poursuivis par les premiers plans tirs s'ajoutent donc des objectifs quantitatifs. Par contre, un élément important, c'est que si la surpopulation de gibier est conçue comme problématique pour la biodiversité, c'est avant tout et surtout pour protéger la production ligneuse que ce plan de tir est mis en place. Alors, pour assurer la crédibilité des données qui alimentent ce plan de tir, le DNF et les conseils cynégétiques travaillent ensemble à leur relever. Mais malgré leur enrôlement et la revendication de leur rôle de gestionnaire de la faune sauvage, la dimension quantitative du plan tir indigne les chasseurs qui y voient en fait la négation de ce qui pour eux constitue l'essence de la chasse, l'éthique. Alors c'est quoi l'éthique de chasse ? Selon Maxime Michaud, le discours éthique a toujours accompagné la pratique cynégétique et la rhétorique de la qualité en est constitutive. C'est ce qu'on peut voir dans... Le témoignage, encore une fois, d'Yvan, qui me dit, alors que je lui demande de m'expliquer ce que c'est l'éthique de chasse, que c'est essayer de protéger au maximum le gibier. Il insiste, le beau gibier, le gibier d'avenir, le gibier reproducteur. Mais plus important pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'éthique de chasse, elle va distinguer le vrai chasseur, qui attache plus d'importance au gibier vivant, avec la possibilité de le chasser, qu'à une proie morte, de ceux qui sont des prétendus chasseurs, qui sont méprisés, à savoir les viandards, les tireurs et puis les braconniers. Et donc Yvan continue en me disant « L'éthique de chasse, ce n'est pas aller à la chasse pour tirer et faire de la viande, et faire un quota, et faire un tonnage, et faire 10 ou 15 ou 20 ou 25 bêtes, et dire qu'on a réussi une bonne journée. » Autrement dit, chasser, c'est gérer la faune, mais pas selon une logique quantitative. Sinon, ce n'est pas chasser. Les chasseurs gèrent en fait le gibier comme un capital qu'il s'agit de protéger. C'est particulièrement le cas des femelles qui assurent le renouvellement de la population et dont le tir, parce qu'il n'amène pas de trophée, est de toute manière moins prisé. Le plan de tir, en imposant des quotas minimum en non boisé, est ainsi vécu comme en fait l'expression d'une dictature administrative. On a ici le témoignage de Jean-Marc qui me dit, choqué, les agents des eaux et forêts ont dit « Vous avez 500 euros d'amende par biche non tirée. Est-ce que vous vous imaginez où on va ? Il y avait une amende aux chasseurs parce qu'ils ne tiraient pas assez de biches. » Alors, ils sont contraints de réaliser ce plan de tir, mais ils organisent quand même une forme de résistance et ils veillent en fait à protéger un maximum les biches sur leur territoire en stoppant les tirs au moment où ils ont atteint le minimum. C'est ce qu'il me dit dans son témoignage ici. Donc, la plupart du temps, quand le minima est atteint, les 20 biches, alors qu'on peut en tirer 35, on dit stop, on ne tire plus de biches. Et ça fait partie aussi d'un discours qui veut montrer que les chasseurs ne sont pas des tireurs et qu'on ne tire pas sur tout et sur n'importe quoi. Alors, cette logique s'étend aux autres espèces de la grande faune qui, par contre, elles ne sont pas soumises à des plans de tir et dont la régulation est jusqu'à présent laissée à la discrétion des chasseurs. Alors, deux logiques gestionnaires, on le voit, apparemment incompatibles, s'opposent sur le sol ardennais. Aux yeux des chasseurs, cependant, la gestion qui fait d'eux des producteurs de gibier n'est pas du tout incompatible avec, avec le rôle de vétérinaire de la forêt. C'est pour eux de cette façon-là qu'ils le jouent. Mais dans le même temps, il y a une vive compétition autour des territoires de chasse en Wallonie et des enjeux financiers importants qui en découlent et qui vont pousser en fait les mêmes chasseurs à s'assurer d'année en année des tableaux de chasse conséquents. Et la conception du gibier comme capital et la notion de gestion vont donc prendre des dimensions un peu différentes. Alors longtemps, la chasse a été réservée aux grands propriétaires fonciers en Belgique et elle s'est démocratisée avec la Révolution française. Et aujourd'hui, tout titulaire d'un permis de chasse délivré par la région wallonne a le droit de remettre une offre pour la location d'une chasse. La demande pour les territoires de chasse est forte, mais forcément l'offre est faible, ce qui a progressivement conduit à l'augmentation des baux. Les territoires giboyeux sont particulièrement prisés et pour s'en assurer la location, certains chasseurs n'hésitent pas à faire des offres conséquentes. On me dit, si on sait qu'il y a énormément de gibier, ça peut aller à 100 euros, jusqu'à 300, 400 euros l'hectare de location annuelle. Or, en Ardennes, au sud du Sion-Sambre-et-Meuse, les territoires de chasse doivent faire minimum 50 hectares d'un seul tenant. Pour les chasseurs locaux, la capacité à soumettre des prix compétitifs pour obtenir les locations de chasse est devenue un enjeu majeur. Il s'agit de lutter contre l'appropriation de ces territoires par les chasseurs voisins, mais aussi par ceux qu'on appelle les seigneurs. Ces chasseurs fortunés, nouveaux riches et entrepreneurs chasseurs, dont les moyens financiers semblent sans limite, qui peuvent donc s'octroyer les meilleurs territoires, les territoires les plus giboyeux, que ce soit des territoires publics ou privés, mais aussi qui ont les moyens de les rendre meilleurs, ces territoires. Certains sont d'ailleurs entrepreneurs jusque dans la chasse, me disent mes interlocuteurs. Ils y investissent en y voyant un moyen de s'enrichir, soit socialement, à travers des chasses prestige, ou économiquement, à travers ce qu'on appelle des chasses business. Ces chasses-là sont inaccessibles pour les chasseurs locaux parce que les parts de chasse se monnaient à prix d'or. Il y a tous les montants, me dit-on, ça commence à 500 euros et ça va jusqu'à 20, 25, 30, 40 000 euros l'année pour une part de chasse. Pour résister aux appétits territoriaux des seigneurs, du coup, et proposer des offres concurrentielles pour les baux de chasse, les chasseurs plus modestes s'associent. La capacité des gens du coin à louer les chasses locales dépend de leur capacité à vendre des parts et des journées de chasse. Et pour vendre des parts et des journées de chasse, ben, il faut un territoire appétant. Et qu'est-ce qui rend un territoire appétant pour les chasseurs? Le gibier. La protection de celui-ci ne vise dès lors plus seulement à permettre le vieillissement des animaux dont on souhaite voir le patrimoine génétique perdurer, mais également le maintien d'une population importante qui attire et fidélise les actionnaires. Malgré la contradiction manifeste avec les principes de qualité qui fondent l'éthique de chasse, la réalisation de résultats devient un enjeu majeur. Et pour compenser leur manque de moyens, ces chasseurs modestes vont en fait imposer des restrictions de tir très draconiennes aux personnes qui participent à leur chasse. Et ces restrictions sont de plus en plus draconiennes en fait, au fur et à mesure des années. C'est le témoignage d'Yves, un garde forestier, qui me dit « Je me souviens, les premières chasses où j'ai fait mes contrôles à l'époque, ils interdisaient de tirer sur les laies de plus de 100 kilos. Et puis ça a été 70, et puis 65, et maintenant, la dernière fois, ils disaient 45. » Ces restrictions, associées à des pratiques de nourrissage légales et aux autres facteurs évoqués plus tôt, des hivers doux, des fructifications abondantes et la progression du couvert forestier, va booster la reproduction des laies. Et donc, paradoxalement, les chasseurs qui sont titulaires de chasses modestes vont entretenir et participer à une situation qu'ils subissent et qu'ils dénoncent. Et j'en viens à la notion de pharmacone, sur laquelle je conclurai tout doucement ma présentation. La notion grecque de pharmacone, elle est ancienne et elle me semble une piste intéressante en fait, pour explorer le rapport ambigu qu'il y a entre la chasse et les forêts, mais aussi entre les acteurs forestiers et la chasse. Elle est à l'origine du mot pharmacie et elle désigne en fait la duplicité d'action du médicament qui peut guérir autant que nuire. La référence la plus célèbre à cet égard, c'est sans doute celle de Jacques Derrida, qui dans son analyse du Phèdre de Platon s'intéresse au pharmacone en tant que métaphore pour parler de l'écriture. Celle-ci, explique-t-il, pallie les défaillances de la mémoire, mais conduit in fine à sa perte. C'est un peu comme votre répertoire dans votre smartphone qui vous sert à garder vos numéros de téléphone, mais du coup, on ne se souvient d'aucun. C'est aussi d'un point de vue métaphorique que je propose de concevoir la chasse comme un pharmacon pour les fourrures de Naise. Et ce n'est d'ailleurs probablement pas un hasard si elle s'accorde si bien avec l'idée du chasseur comme vétérinaire, celui qui administre le soin et le remède. Alors cette notion, elle a cela d'intéressant qu'elle permet de dépasser en fait les dualismes simplistes et d'appréhender les contradictions qui affleurent dans les discours des acteurs et dans leurs pratiques. Les acteurs peuvent en effet, tout en restant cohérents et sincères, émettre une critique aiguë de la chasse et de sa responsabilité dans les surdensités de gibier, tout en considérant qu'elle reste le meilleur remède que nous puissions y apporter. Parce que la chasse n'est pas un poison en soi, et parce qu'en fait il n'y a pas de pharmacone en soi. S'appuyant sur ce constat, Yannis Constantidinès invite ainsi à une fois pour toutes rejeter la croyance en une plate antinomie des valeurs. Un remède peut se révéler bon ou mauvais selon l'usage qu'on en fait. L'usage détourné de la chasse et de l'éthique qui la sous-tend à des fins économiques et financières joue en effet un rôle majeur dans la transformation de ce qui était pensé comme un remède en poison. Mais il faut bien se rendre compte aussi que tout ça se passe dans un contexte où l'activité cynégétique ne va plus de soi parce qu'elle est dépouillée de sa vocation alimentaire et que les surdensités de gibier semblent par ailleurs dans ce contexte constituer un argument imparable à sa perpétuation. Cependant, si la notion de pharmacone nous invite à considérer la possibilité que le mal soit dans le remède, elle invite également à la démarche inverse. Ainsi, certains continuent-ils de miser sur la chasse comme un remède à l'absence de prédateurs et sur les chasseurs comme des vétérinaires des forêts. Cela passe cependant par de nouvelles recettes, dont certaines sont tentées en Wallonie, c'est notamment le cas des chasses à licence, qui tentent en fait de contrecarrer la spéculation autour des territoires de chasse, en confiant la gestion des territoires à l'administration wallonne, en proposant en fait l'achat de licences de chasse qui permettent d'aller chasser quelques jours par an aux chasseurs et qui va, en fait les prix sont démocratiques. Il y a un tirage au sort qui va donner la priorité aux chasseurs locaux et qui va permettre en fait à ces chasseurs qui ne sont pas de grosses fortunes d'aller chasser sur des territoires très giboyeux et espérer aller chasser sur des territoires aussi où il y a du cervidé, ce qui n'est pas toujours évident quand on n'a pas de gros moyens. Mais par ailleurs, ces chasses aussi se proposent de chasser autrement et de chasser plus éthique, en ne recourant pas aux battues à corps et à cri, qui sont en fait très répandues en Ardennes belge, et en particulier dans le sud de l'Ardenne. Plus on descend vers la France, plus les battues à corps et à cri sont répandues. Donc ces chasses à licence propose de chasser plus éthique en supprimant les battues et en proposant des poussées silencieuses et de l'affût. Mais tout ça, c'est un autre débat. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de l'aborder aujourd'hui. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention.